commencer. Je dois dire que ce documentaire sur les traces d'Edgar Rice Burroughs a été, je pense, une très bonne introduction à ce, à ce dont nous allons parler maintenant. Et j'avoue que personnellement, j'ai été très touché de voir à nouveau Michel de Cooper, que j'avais eu la chance de connaître il y a de nombreuses années de cela, et qui malheureusement nous a quittés depuis la réalisation de ce documentaire, et qui était, comme vous avez pu le voir, un véritable fan absolu de cette littérature populaire d'Edgar Rice Burroughs. Je signale aussi que la tribune des amis d'Edgar Rice Burroughs continue d'être publiée malgré la disparition de Michel de Cooper. C'est sous la direction de Michel Vanreux maintenant. Et donc, si vous tapez sur le net « Amis d'Edgar Rice Burroughs », vous tomberez sur un site qui est extrêmement bien fait, avec beaucoup de détails. Et donc, pour parler plus précisément, parce que comme vous l'avez vu, Edgar Rice Burroughs a créé plusieurs personnages très importants. Là, on a été cité David Innes pour la série Pelletida, John Carter pour Barsoom, Marx, etc. Et puis, bien entendu, Tarzan. Et donc, Tarzan, qui est sans doute la création, le personnage le plus connu d'Edgar Rice Burroughs. J'ai avec moi Claude Aziza, qui a écrit récemment « Toi Tarzan, moi fan ». Et on peut dire que Claude Aziza est un très très fin connaisseur et un grand fan de l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs en général, et de Tarzan en particulier. Et effectivement, il a réussi l'exploit en 50 questions, hein, c'est ça si je me souviens bien, de répondre à tout ce que vous voulez savoir sur Tarzan. Alors, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder les 50 questions ici, mais on essaiera d'en faire au moins une ou deux quand même. À côté de lui, nous avons Éric Plamondon, qui vient de sortir Hongrie Hollywood Express chez Phébus. Alors, j'ai vu en lisant ce livre, qui est, comment pourrait-on le qualifier, de roman documentaire, quelque part.
Oui, ou... On a parlé parfois de vraies fausses biographies à propos de Wes Meyer aussi, puisque on a parlé de la fiction, mais avec des faits très réels.
Voilà, donc le roman est centré principalement sur la biographie de Wes Meyer et de ses différentes incarnations de Tarzan au cinéma. Et alors, ce qui m'a frappé, mais on aura l'occasion peut-être de revenir dessus tout à l'heure, c'est qu'on a vu que la vie d'Edgar Rice Burroughs était très agitée au début. Il a fait beaucoup de choses. Et manifestement, vous, d'après le roman, vous avez vécu une vie à la Rice Burroughs au début. sans pourchasser les apparences.
Pour l'instant, je n'ai pas son spécialité, malheureusement.
Ça viendra. Et puis, j'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir parmi nous M. Kevin Brownlow, qui a écrit ce magnifique ouvrage qui s'appelle « La parade est passée ». Alors, M. Brownlow, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est le spécialiste mondial de l'époque du cinéma muet. Donc, vous voyez, et ça vous donne ça qui est absolument passionnant, qui fourmille d'anecdotes sur le Hollywood des années 10 et 20. Et M. Brownlow a aussi réussi l'exploit de refaire la copie presque intégrale du Napoléon d'Abel Gance, qui est le chef-d'œuvre d'Abel Gance. Et grâce à M. Brownlow, on peut en voir aujourd'hui la copie la plus complète qui existe depuis sa première projection. Et donc pour commencer le débat, alors plus spécialement sur Tarzan, je vais peut-être demander d'abord à Claude Aziza d'intervenir pour peut-être préciser un petit peu plus la manière dont Edgar Rice Burroughs a commencé par créer le personnage littéraire de Tarzan qui a un siècle aujourd'hui.
Oui, je vais d'abord réagir, si vous me permettez, sur le documentaire. Voilà. Deux mots d'introduction pour préciser un peu le sens de ce que je vais dire. Pardonnez-moi si vous étiez là hier, mais on fait vraiment, c'est le lien avec le débat d'hier. Moi, dans le civil, si on peut dire ça, je suis professeur de langue et littérature latine à la Sorbonne Nouvelle. Voilà. C'est-à-dire, j'ai un regard et un statut d'universitaire. Mais le personnage de Tarzan m'a toujours fasciné, pour des raisons que je ne vais pas forcément dévoiler ici, qui ne vous intéressent pas d'ailleurs, depuis l'enfance. Alors, je voudrais réagir tout de suite au documentaire. Et je vais avoir le rôle du méchant, si vous voulez. C'est-à-dire, le rôle du méchant, c'est celui qui détruit les mythes. Et puis après, je vais essayer, juste très brièvement, de montrer comment un personnage littéraire devient un mythe. Alors, on va détruire des mythes, si vous voulez. Le mythe, c'est, par exemple, l'écrivain américain qui fait 36 000 métiers, qui est dans la misère, qui, d'un seul coup, a une inspiration. Jack London, si vous voulez. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout le cas d'Edgar Rice Burroughs. Il n'a pas combattu les Apaches. Il s'est contenté simplement d'entrer dans le 7e de cavalerie en mentant sur son âge, parce qu'il n'a pas pu rentrer à West Point, et il s'est occupé à des travaux de terrassement. Il est resté très peu comme policier dans le train. Et il a fait 36 000 métiers, et finalement, après, il s'est occupé de publicité pour un certain nombre de choses. Donc, c'est une vie, il faut bien le dire telle qu'elle est, c'est une vie quasiment rangée, avec pas d'amour dramatique, une femme et des enfants, et il constate autour de lui, parce qu'il vend des pulps, c'est-à-dire des petits journaux avec des récits, que finalement, lui, pourrait faire mieux. Alors, vous allez nous dire, une nuit, c'est l'illumination, c'est Rimbaud, ça. D'un seul coup, il pense à Tarzan. Absolument pas. Tarzan, ça ne l'intéresse pas. Il se fiche éperdument de Tarzan. Ce qui l'intéresse, c'est d'écrire un roman de science-fiction populaire, comme on en faisait dans les années 1910, c'est-à-dire une histoire qui se passe sur Mars, sur Vénus, et il va fonder le personnage de John Carter. Et il le donne à l'éditeur. À l'éditeur, évidemment, en feuilleton, bien sûr, journal. Et puis, l'éditeur lui dit, mais c'est très bien ça, et sous pseudo. Et c'est très bien, vous ne pourriez pas nous faire quelque chose. Et lui, il a un récit d'aventure médiévale. Alors l'éditeur, ça ne l'intéresse pas, qui vient d'être retraduit en France. Traduit en France. Et il dit, bah, je vous donne une petite histoire de jungle. Et il écrit cette histoire. Tarzan, pourquoi? Ben, pour un certain nombre de raisons, je vais l'exposer en deux minutes, mais il le donne à l'éditeur. Et alors, à ce moment-là, on a... pour lui, c'est un roman, pas plus. Et ça ne l'intéresse pas, il va poursuivre les aventures de John Carter. Et puis, l'éditeur dit, c'est formidable, il faut en faire d'autres. Et il commence, oh, il dit non, ça ne m'intéresse pas, on sait très bien que le deuxième roman est plus mauvais, une suite c'est toujours plus mauvais. On le sait au cinéma en général, à part quelques exceptions, comme la suite du Parrain. Bon, peu importe. Et donc, non, pas du tout. Et alors, l'éditeur qui est malin, lui envoie énormément de lettres des lecteurs. Alors, on a par exemple j'en ai lu beaucoup. On a, par exemple, un groupe de soldats qui s'est réuni en disant, enfin, écoutez, c'est pas possible, ça, il faut donner une suite. Et puis, il y a des dames qui écrivent en disant, on comprend pas, il aime Tarzan, Tarzan aime Jan, Jan aime Tarzan. Et puis, à la fin du roman, ça, si vous l'avez lu, Tarzan se sacrifie parce que Jan est déjà fiancé à quelqu'un qui n'est que son propre cousin. Et pourtant, il a reçu de la part de Paul Darnaud un télégramme en disant « Vos empreintes, ça c'est intéressant aussi, vos empreintes prouvent que vous êtes vraiment Lord Christophe. » Mais ça n'intéresse pas, il n'a pas envie. Et contraint et forcé par l'éditeur, oui, ça détruit un peu la légende de l'inspiration, j'en suis désolé. Et contraint, vous pouvez me lapider, mais à la fin seulement. Contraint et forcé, il écrit la suite. Et puis après, petit à petit, il écrit parallèlement John Carter, par exemple, John Carter. Bon. Alors, le problème, c'est pourquoi en 1912, quelqu'un, un romancier, écrit sur un homme singe. Alors, un romancier, il écrit à partir de deux choses. De sa vie, son conscient et son inconscient, et de ce qui tourne autour de lui. Burroughs n'est pas un grand connaisseur de la littérature, mais il sait un certain nombre de choses. Or, qu'est-ce qu'on a autour en 1912? C'est ça qui m'intéresse, en tant qu'historien de la littérature. Bon, de la littérature latine, évidemment, mais il y a un roman de Burroughs qui s'appelle Tarzan dans l'Empire romain, et c'est ça qui m'a amené, d'ailleurs, à Tarzan. Et c'est vrai. Bon. Donc, qu'est-ce qui intéresse? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, dans le monde entier, à la suite de l'influence de Darwin, on commence à se poser des questions sur les origines d'Europe, de l'homme. Vous savez très bien que Darwin a été contesté et d'une façon religieuse, il y a le darwinisme. Je vous signale que dans l'État du Wisconsin, dans les années encore 1952-53, un instituteur interdisait la lecture de Tarzan parce que c'était contre Darwin. L'homme ne descend pas du singe. Donc, Darwin, et autour de Darwin, on commence à s'intéresser au rapport entre l'homme et l'animal. Et le singe, est-ce que c'est l'ancêtre ou non? Et en France, des auteurs écrivent. Déjà, Jules Verne avait imaginé une exploration avec un homme qui règne sur les babouins. Et puis, Gaston Leroux, vous savez bien, Rouletabille, bon, Chéri Bibi, écrit un ballot, l'homme singe. C'est-à-dire qu'on a, en France et ailleurs, une série de romans qui mettent en scène un homme qui n'est pas un homme, mais Kafka avait déjà écrit Discours pour une académie, où le problème, c'était un singe qui parlait. Et Vercors, Le silence de la mer, bien plus tard, écrira Les animaux dénaturés. Et je vous rappelle quand même que la controverse de Valladolid, et ça nous ramène au sud de Christophe Colomb, se demandait quelle était la différence entre l'humain et le sauvage. Et Burroughs crée un personnage, il est déjà en avant-garde de l'écologie, si vous voulez, il crée un personnage qui, il le dit lui-même, hein, qui a pris le meilleur de l'humain et le meilleur du primitif, au sens noble du terme. Mais un personnage, il n'est pas de rien. C'est pas comme ça. Alors Burroughs a été très réticent et après, très tard, dans les années 1827-28, il avouera que ses modèles, c'est quoi? Ben, ces modèles, c'est Romulus et Rémus, hein, les fondateurs de Rome, avec une louve, bon, élevée par une louve, qui n'est pas une louve d'ailleurs, parce que loupa, en latin, ça veut dire la louve, mais ça veut dire aussi la prostituée. C'était donc une pute qui faisait le tapin sur les bords du Tibre, hein, l'histoire de la fondation de Rome. Élevée par une louve, et d'un autre côté, c'est Mowgli, élevé par des loups. Mais alors pourquoi? Mais parce que depuis le 19e siècle et de la fin du 18e, nous avons l'attention est attirée par les enfants, ce qu'on nomme les affins, les enfants sauvages. Vous avez un livre de Malson, Lucien Malson, sur les enfants sauvages. Et on a les mémoires du docteur Itard qui recueille le seul enfant sauvage qu'on connaisse bien en France, qui est Victor de l'Aveyron, qui avait été élevé par des filles. Donc l'idée de savoir est-ce qu'on a des enfants sauvages, et au début du 19e, Burroughs, en tout cas on pouvait avoir... on savait qu'il y a eu des enfants sauvages, on les a retrouvés, mais en 53-54, on a découvert dans le désert de Syrie un enfant gazelle, par exemple. Donc ça existe encore, les enfants sauvages, et il y a des cas célèbres. Alors, ça, c'est l'environnement de Burroughs. On va ajouter encore deux, trois choses. Burroughs ne pouvait pas ne pas savoir qu'à Chicago, où il était encore, au début du siècle, étaient arrivés Freud et Ferenczi, Jung, qui venait faire des discours sur des conférences sur l'analyse, la psychanalyse de l'enfant. L'inconscient de l'enfant, pourquoi? Invité par un professeur de l'Université de Chicago qui était en pointe sur les problèmes de l'enfance, de l'inconscient de l'enfant. Donc ça voulait dire que finalement, l'histoire de Tarzan, et je vais m'arrêter là, elle est extrêmement complexe. Au point de vue littéraire, elle est passionnante, si vous voulez. C'est le deuxième point, c'est que, comment écrit Burroughs? Eh bien, Burroughs est un des premiers à se servir de la machine à écrire pour écrire. Ça veut dire que ses phrases sont rythmées par la machine, et il a retrouvé la technique du roman feuilleton français. Ça veut dire que ce sont des phrases courtes, très lisibles, et puis il y a une technique qui fait que sans cesse, les personnages se croisent. La jungle de Tarzan, c'est vraiment les grands boulevards parisiens. Alors les gens se perdent, ils se retrouvent au coin d'une rue. C'est passionnant, si vous voulez, au point de vue littéraire. Bon. Et puis, puisqu'on a parlé de belles princesses et tout, c'est pas Jane qui est une belle princesse, contrairement à ce que dit le documentaire. C'est là, c'est la princesse qui domine, la reine de la cité d'Opar. Et Opar, c'est la cité qui descend de l'Atlantide. Ça veut dire que Burroughs a repris tous les mythes et il les a fait tourner autour de son personnage, de ses personnages. Alors, évidemment qu'on a fantasmé, qu'on a fait des pseudo-psychanalyses du côté du commerce, du Tarzan, pourquoi Tarzan, il est zoophile, il n'aime pas, etc. Ça, à mon avis, c'est de la rigolade. Il y a un problème littéraire, et le seul problème qui me paraît intéressant, c'est comment un personnage littéraire devient un mythe.
eh ben, il va devenir un mythe de deux de façons. D'abord par la BD qui précède le cinéma, et puis ensuite par le cinéma, et puis petit à petit, on va s'apercevoir que c'est un personnage hors du commun et on va lui coller des mythèmes. Qu'est-ce que c'est que des mythèmes? Ça veut dire qu'à partir d'un personnage littéraire, on a des excroissances de BD, des aventures de Tarzan qui ne figurent pas chez Burroughs, des excroissances cinématographiques, des films sur Tarzan qui ne figurent pas chez Burroughs, et puis des suites, et le meilleur spécialiste américain, c'est un écrivain de science-fiction qui est mort il y a quelques années, Philippe José Farmer, qui écrit d'abord une biographie totalement folle de Tarzan, en reprenant tous les Tarzans, mais ça existe pour Lupin, ça existe pour Sherlock Holmes, bien sûr, et qui en même temps fait d'autres Tarzans, donne des suites de Tarzans, etc. C'est comme ça qu'on devient un mythe, et puis le mythe est magnifié par un acteur, et dans ce cas, dans le cas présent, ce sera Johnny Westmuller, mais il ne faut pas oublier aussi que pour Burroughs, et je ne parlerai pas de ses problèmes avec le cinéma parce que c'est terrible, pour Burroughs, le Tarzan idéal, c'est Herman Brick, ce que vous avez vu très vite, qui tournera ensuite sous le nom de Bruce Bennett, et puis le deuxième Tarzan idéal, c'est James Spears, qui va devenir son gendre. Et on oublie aussi les centaines d'émissions de radio qui ont été faites par la fille de Burroughs et par James Spears. Voilà. En gros, si vous voulez, puis petit à petit, Burroughs meurt en 1950. Vous le voyez en militaire, en fait, il a été simplement dans sa vie correspondant de guerre à Hawaï. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique, ce qui fait que dans la première version, dans le premier Tarzan qui sort en feuilleton, on voit des tigres. Alors le lecteur indigné n'a jamais eu de tigre en Afrique, vous le savez. Vous avez parcouru comme moi toute l'Afrique. Et donc les lecteurs indignés lui disent, et dans le roman, l'apparition en roman, qui est de 14, dans l'apparition en roman, il n'y a plus de tigres, mais il n'y a que des lions. Vous avez été là-dessus, si vous voulez.
Alors, je tiens à remercier Claude Aziza qui a détruit toutes nos illusions dès le début de ce débat, non seulement sur la personnalité d'Edgar Rice Burroughs, mais aussi sur Romulus et Rémus. Alors là, d'ailleurs, j'avoue que... Éric Plamondon, vous qui avez été fasciné non seulement par la vie de Johnny Westmuller, et ça on reviendra après, mais vous voulez peut-être commenter parce que vous parlez aussi beaucoup d'Edgar Rice Burroughs dans votre roman.
Moins que vous. Alors moi, je ne fais pas de côté, puisque on parle ici beaucoup de réalité, et que moi, je suis dans le domaine de la fiction, donc justement, je vais essayer de réenchanter le mythe, qui, pour rebondir sur ce que vous dites, justement, Tarzan devient effectivement un mythe, et pour moi, le dernier des grands mythes, justement, après le mythe grec jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir ce personnage, vous parliez d'écologie tout à l'heure, qui est quand même le Tarzan personnifie cette espèce d'appel de retour à la nature qui a toujours été cher aux Américains, de l'homme qui peut se défendre sans la technique, parce que l'air de rien, en Amérique, qui devient l'Empire grâce à la technique, retrouve l'homme primitif qui peut devenir le nouveau héros à l'époque. Et je pense que c'est dans ce sens-là où c'est intéressant de voir Westmuller, quand il incarne Tarzan au cinéma, une des raisons, et c'est ce que dira Woody One Take, qui était le premier réalisateur, il cherchait un acteur qui était capable de jouer juste avec une feuille de pagne. Et en général, les acteurs à Hollywood dans les années 30, jouer plus devant une caméra, c'était pas tout à fait facile. Et Westmuller, qui avait été champion olympique de natation, qui avait brisé le record du monde du 100 mètres en moins d'une seconde, en 1924 aux Olympiques à Paris, arrive sur les plateaux de studio et lui, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans les piscines à moitié nu, alors de se retrouver nu devant la caméra, ça lui pose aucun problème, et on le trouve génial, il est très juste, et on l'embauche, et c'est comme ça qu'il va devenir l'incarnation de Tarzan, la plus célèbre, et aussi parce qu'il est le premier Tarzan du cinéma parlant. Il y en a eu d'autres avant, mais au muet.
Voilà, justement, là, nous allons nous tourner vers M. Brownlow, parce que à l'époque du cinéma muet, alors comme je ne suis pas un expert en matière de filmographie de Tarzan, j'ai tapé sur Google, hein, comme tout le monde, et donc j'ai vu qu'il y avait eu 8 films qui avaient été tournés à l'époque du muet sur Tarzan. Avec plusieurs acteurs différents, peut-être on pourra parler un petit peu après, puisqu'il y a eu Andrew Lincoln, qui a été la toute première incarnation de Tarzan, et puis Jean Pollard, James Pierce et Frank Merrill. Mais donc peut-être vous qui êtes un très fin connaisseur du Hollywood de l'après-première guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont emparés de Tarzan?
There's a very important name which doesn't always get attached to these sort of pictures, and that is the name of Colonel Selig.
Selig?
S-E-L-I-G.
Donc il y a un nom très important qu'on n'entend pas très souvent quand on parle du cinéma muet, c'est Colonel Selig.
When President Roosevelt went to Africa, he decided to take a cameraman with him, and Colonel Selig wanted one of his cameramen to go with him, but Roosevelt settled for someone else. So Selig staged Roosevelt's trip to Africa in the east coast of the United States.
Donc, quand le président Roosevelt voulait se rendre en Afrique, il voulait amener avec lui un cameraman. Et Colonel Selig voulait envoyer un de ses caméramans, mais le président a refusé. Donc Selig, en fait, a tourné la visite du président Roosevelt en Afrique sur la côte est des États-Unis.
And in the Roosevelt picture, the cameraman was far too frightened and didn't have the right lenses to get close to a lion that was about to be shot by Teddy Roosevelt. But Selig had it in proper close shot.
Donc, le cameraman de Roosevelt, véritablement en Afrique, avait trop peur pour s'approcher du lion qui allait être tué par Teddy Roosevelt. Mais Selig, de son côté, avait des images parfaites du lion et de l'assassinat du lion.
So, when the franchise was acquired by, I think it was a fellow called Harry Revere, one of those crooked, low-budget producers in Hollywood, in the early days of Hollywood, when it was just a sleepy country town.
Donc, quand la franchise a été obtenue par Harry Revere, un réalisateur corrompu qui travaille surtout dans des productions de petit budget, à l'époque quand Hollywood n'était qu'un village.
The pictures, to put it mildly, low standard as well as low budget.
Donc les images étaient de mauvaise qualité et aussi faites avec peu de budget.
Imagine in California, what did you have that could possibly resemble Africa?
Parce qu'en Californie, on n'avait rien qui ressemblait à l'Afrique, justement.
So, I've seen, and I don't approve of this at all. In fact, I violently disapprove of it. But there was a series called Fractured Flickers, and it was taking silent films and satirizing them by putting dialogue on them.
Donc, j'ai vu et je n'approuve pas du tout, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche, mais il y avait une série qui s'appelait Fractured Flickered, et ils prenaient des films muets et mettaient des dialogues dessus et faisaient des satires, en fait, des films muets.
These were made on television in the 50s by people who should have known better, and one of them was Tarzan, and
Donc c'était des films faits pour la télévision dans les années 50 par des gens qui auraient pu se demander ce qu'ils faisaient. Et un de ces films, c'était Tarzan.
So there's an ape, a gorilla, loping towards a girl in the grass hut. She's got a revolver. And she aims it through the window and fires, and it just goes click, and she breaks it open, and you get a close-up of an empty chambers. And she said on the soundtrack of this awful thing, "Gee, I hate these low-budget movies."
Donc on voit une gorille qui court vers une fille qui se trouve dans une petite cabane. Elle a un fusil et elle se met près de la fenêtre pour tirer sur cette gorille, mais rien ne sort de son arme. Et donc elle le casse pour ouvrir pour voir ce qu'il y a. Il y a rien à l'intérieur. Et elle dit, "Ah, je déteste ces films sans budget."
But let me say something about Elmer Lincoln. He was the hero of the Babylonian episode of Intolerance, where he played the mighty warrior. And it's a traumatic name for me because I was 13 and I was going to see Intolerance at our local cinema.
Donc j'aimerais dire quelques mots sur Eleanor Lincoln, qui jouait dans Intolerance et jouait le guerrier. J'avais 13 ans quand j'ai vu ce film et...
And a mischievous friend said to me, oh, when you see that, something terrible happened in the battle scenes. This fellow, this huge warrior with a sword, accidentally decapitated one of the extras.
Donc un ami à moi, un ami pas très gentil, m'a dit il y a quelque chose de terrible qui se passe dans une des scènes de bataille. Il y a ce grand guerrier qui sort son épée et en fait, lors du tournage, il a décapité, mais pas, il n'a pas fait exprès, mais il a décapité un des extras qui jouait dans la scène.
So I sat there waiting for this moment, and my God, it happened. And I was appalled. And I still am traumatized to the extent I cannot look at that sequence. I cannot go to any horror film, all because of Elmo Lincoln slicing. And it's so phony when you see it now, it doesn't look real at all. But for somebody who'd never seen anything like this, it was completely real. And that is what they were depending on with the Tarzan pictures, of course, being so low budget, that they could get away with anything.
Mm-hmm. Donc j'attendais cette scène avec trépidation et finalement ça s'est arrivé exactement comme mon ami m'a raconté et j'étais traumatisée à vie. Je ne peux pas regarder des films d'horreur à cause de cette scène, mais quand je le vois maintenant, je vois à quel point ce n'est pas du tout réaliste, ça n'a rien à voir avec le réel. Mais les gens qui ont fait les films de Tarzan à l'époque, ils s'attendaient à ça en fait. Ils s'attendaient à avoir des gens qui n'ont jamais vu de film auparavant dans leur vie. Donc, qui allait être terrorisé quand même, même si les images n'étaient pas du tout réelles.
They get much better when they become MGM pictures and they've got Van Dyke and Richard Thorpe and a tremendous art department and special effects department. But I'll talk about that later on.
Okay.
Donc, c'est beaucoup mieux lorsqu'on a des films de MGM, de Tarzan, où on a Van Dyke et Richard Thorpe et des effets spéciaux. Mais on va parler de ça plus tard.
Mais peut-être aussi, parce que vous avez évoqué Edmond Lincoln, donc il fut premier. Je ne savais pas qu'il avait joué dans, dans une des scènes de Napoléon de Davis. Mais Edmond Lincoln, parce que comment est-il passé, je crois qu'il était pompier à l'origine, comment est-il passé du statut de pompier à celui d'acteur?
I may know something about the silent films, but I know absolutely nothing about the people who played Tarzan.
Je connais pas de choses sur les films muets, mais je connais rien du tout sur les acteurs qui ont joué Tarzan.
Alors peut-être Claude, vous avez.
Oui, allez, je vais encore détruire un certain nombre d'illusions. Juste, si vous voulez avoir des choses sur le tournage d'Intolérance, il faut voir le film des fers. Taviani, qui s'appelle Good Morning Babylonia, qui est absolument extraordinaire. Effectivement, dans Intolérance, dans la séquence sur Babylone, vous voyez le grand guerrier Elmo Lincoln. Et vous dites, c'est un type extraordinaire. Or, Elmo Lincoln, je ne sais pas, il était pompier, moi non plus, je ne sais pas comment il a été pris, parce que finalement, les acteurs, ça m'intéresse, mais médiocrement. Mais ce que je sais, c'est qu'il avait une trouille atroce des animaux. Il était incapable de sauter d'une branche à l'autre. Ah, je vais détruire un mythe. Hein. Chez Burroughs, dans les romans, les histoires des lianes, c'est pas du tout. Hein. Tarzan ne vole pas d'une liane à l'autre. Ça, c'est une invention du cinéma. Il se déplace autrement, mais pas comme ça. Et donc, Lincoln était incapable de sauter d'une branche à l'autre. Et il avait tellement peur des animaux qu'il ne pouvait même pas s'approcher des animaux. Et donc, tout ça correspond d'ailleurs à ce qui a été dit. Et toutes ces scènes sont absolument truquées. Et le premier Tarzan a été tourné, non, évidemment pas en Afrique, mais moitié studio, moitié espèce de jardin végétal. Mais Lincoln avait une telle présence, même si, vous voyez que la morphologie de Tarzan décrite par Burroughs, elle se rapproche plutôt de celle de Wes Miller, c'est-à-dire, et de Buster Crabbe d'ailleurs, qui a tourné, qui était champion olympique de natation, qui a tourné en même temps que Wes Miller, après qui est parti tourner Flash Gordon, et heureusement pour nous d'ailleurs, et Herman Brix, qui était champion de décathlon, Glenn Morris, qui était aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des acteurs qui ont tourné, sauf le lamentable chez nous Christophe Lambert, dans ce lamentable Greystock, qui est vraiment une parodie de Tarzan, la plupart des acteurs ont été des haltérophiles, des culturophiles, des champions, si vous voulez. Voilà. Et donc, on les a cherchés du côté des sportifs. Alors, pour revenir au cinéma muet, il faut dire que les Tarzans du cinéma muet ont été souvent lamentables. Vous avez par exemple Dempsey qui est un ténor d'opéra avec un ventre assez énorme. Il y a une esthétique du cinéma muet. Regardez par exemple la première représentation de l'Odyssée qui est interprétée par les chanteurs, un film muet de la Scala de Milan, mais ils sont en vacances. Donc, et l'esthétique d'Ulysse ne correspond en rien à l'Ulysse joué par Kirk Douglas par exemple. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes dimensions esthétiques à l'époque du muet qu'à l'époque du parlant. Donc Tarzan subit aussi ses avanies à nos yeux, n'est-ce pas, esthétiques. Ce qui compte, c'est pas ça. Donc les Tarzans du muet qu'on voit mal, peut-être à mes yeux, c'est peut-être celui de James Pierce qui pourrait se rapprocher le plus. Sinon, Burroughs ne lui aurait pas donné sa fille en mariage, j'imagine.
Parce que Gilles Pollard, lui, est aussi expressif.
Lamentable, lamentable.
Monsieur Brownlow, vous avez peut-être un commentaire à ajouter.
Do you have any comments to add to what you just said?
Yeah, it's strange because in Samson and Delilah, Victor Mature was absolutely terrified of the lion. But wouldn't you be?
Yes.
Donc c'est étrange parce que dans Samson et Delilah, Victor Mature a une peur bleue du lion, mais je pense que moi ça serait absolument pareil.
Oui, mais beaucoup d'acteurs ont une peur bleue des lions.
Il y a d'ailleurs une anecdote là-dessus sur Wes Miller qui joue avec Cheetah la première fois et le chimpanzé qui semble un peu agressif en fait parce que c'est une bête un peu dangereuse, l'air de rien, c'est un peu gros et qui devant le chimpanzé qui l'agace un peu fait son cri de Tarzan effectivement pour l'impressionner apparemment le chimpanzé et après ils sont très bons amis, il n'y a plus de problème.
Oui, juste une petite précision pour ceux qui ont vu les Wes Miller, allez on va détruire encore un mythe. Cheetah est un chimpanzé mâle et il est mort, si c'est bien lui, il est mort en décembre et on a un commentaire de Mia Farrow. Vous savez qui est Mia Farrow? C'est la fille de Maureen O'Sullivan, et qui disait « Cheetah détestait ma mère, et dès qu'elle se rapprochait de Johnny Wes Miller, il était furieux, il était... » Il était, alors, hein, non seulement Tarzan ésophile, mais peut-être même homosexuel.
Je voulais dire sur le coup des lianes dans les romans de Burroughs qui n'existent pas, il y a quand même une scène extraordinaire dans Tarzan à New York, où on voit effectivement Tarzan traverser la jungle en liane avec la carte de l'Afrique qui passe en sous impression derrière lui. Et on ne sait pas comment, mais il se rend de l'Afrique à New York avec des liens. C'est extraordinaire.
Et avec en pagayant sur un petit bateau.
Décidément, je crois que nous avons perdu toutes nos illusions durant cette table ronde. Mais alors, Éric Blanc-Condour, justement, on est arrivé là à l'époque du parlant. Et donc, on abandonne tous ces acteurs quand même relativement mauvais qui ont incarné Tarzan et qui sans doute ne savaient pas articuler deux mots de suite. Et donc, il faut, avec le parlant, trouver un nouvel acteur. Et c'est Johnny Wes Miller, pour lequel, à travers votre roman, on voit que vous avez une grande fascination. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à Tarzan au cinéma, c'est d'abord le visage de Johnny Wes Miller qui apparaît, qui a quand même incarné, c'était lui qui a incarné 12 fois Tarzan à l'écran.
Alors je vous rassure tout de suite, Wes Miller était lui-même un très bon acteur. On ne l'avait pas embauché pour ça, on l'avait donc embauché pour sa prestance physique. Et il y avait aussi le fait qu'il avait une très, très, très mauvaise voix, une voix très aiguë, suraiguë pour cet athlète, parce que petit, il avait eu un accident, il était tombé sur un piquet de clôture en essayant d'imiter Douglas Fairbanks dans un film de pirates. Et il est resté marqué par ce problème, qui l'a aidé ensuite à pousser son film Tarzan, mais qui, dans le cinéma, ce n'était pas un problème, puisque dans le premier film, on ne lui demandait pas de jouer. D'abord, on lui demandait de nager. Et la seule chose qu'il dit, en gros, c'est Tarzan et Jane. Donc, ça ne posait pas de problème. Mais son charisme transcendait l'écran sans avoir besoin d'être un réel acteur. Et d'ailleurs, son fils a dit plus tard, Johnny Westmiller Jr., disait « Mon père n'était pas un acteur, c'était une star. » Je trouve que ça faisait bien le mythe de l'acteur.
Et alors, d'où vient cette fascination pour Johnny Westmiller qui s'exprime à travers tout votre roman, parce que votre roman est construit. On a la biographie de Westmiller dans un certain désordre chronologique, et manifestement, la vie de Johnny Westmiller répond à la fois, d'une part, à la vôtre, le rêve fantasmé, je ne sais pas, et d'autre part aussi à celle de cet écrivain brouillard qui se suicide. Donc, d'où vient cette fascination pour Johnny Westmiller?
C'est un coup de foudre, c'est un documentaire un jour que j'ai vu, ça fait longtemps que j'étais dans le processus d'écriture, et Westmiller est vraiment venu cristalliser un grand nombre de choses sur le mythe, sur le récit, sur l'Amérique, sur le rêve américain, le côté aller vers la côte ouest, puisque Westmiller est un enfant immigré hongrois qui arrive avec sa famille. On parlait du mythe tout à l'heure sur Borås, qui n'était pas le mythe de l'écrivain pauvre qui réussit. Par contre, Westmiller, là, on est directement dedans, avant même qu'il devienne Tarzan. On a l'immigré hongrois pauvre d'un père alcoolique qui va, grâce à la natation, s'en sortir, grâce au sport, et devenir, à partir de rien, après avoir passé par Ellis Island avec tous les pauvres de la Terre, devenir, dans les années 30, l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et là, on est déjà dans le mythe, et je pense que la force d'incarnation de Tarzan par cet acteur est liée aussi à cette histoire. Et dans le roman dont j'en parle, c'est quand même c'est un personnage de fiction qui s'appelle Gabriel Rivage, qui raconte la vraie vie d'un personnage qui joue la fiction aussi. Et Westmiller permettait d'aller chercher, de rattacher beaucoup de morceaux. C'est un roman qui est construit avec des fragments parce qu'il y a un côté. Avec Hongrie Hollywood Express, c'est là où on traverse l'Amérique d'est en ouest, en suivant l'histoire de l'Amérique, en suivant l'histoire d'un personnage historique, à travers la voix d'un Gabriel Rivage de fiction, donc qui tente de saisir le monde à travers ce je dis encore vite, mais c'est cette ligne de force qui traverse le XXe siècle.
Il y a un nombre d'anecdotes absolument extraordinaires dans votre roman sur la vie de Johnny Westmiller, qui effectivement, c'est la réussite de l'immigré, mais ensuite c'est la chute, parce que Johnny Westmiller a une vie, on peut le dire, de patron de chaise quelque part. Il y a 4 ou 5 femmes aussi. 5 femmes. Et il meurt dans la misère, non pas tant d'ailleurs à cause des pensions alimentaires à payer, que parce que manifestement il a fait aussi de mauvais investissements. Et il termine en train de placer les gens riches dans un restaurant chic de Las Vegas.
Quand je disais que Westmiller m'intéresse par rapport à. C'est un coup de foudre, mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse dans ce coup de foudre, c'est le. C'est le gloire et l'échéance de Véro, d'une certaine manière. Et le personnage de fiction Rivage, quand il s'interroge sur Westmiller, c'est justement qu'est-ce qui fait la grandeur, la réussite ou l'échec de vie. Donc Rivage est un quarantenaire qui s'interroge lui-même sur son parcours. Et à travers quelqu'un qui a incarné la réussite complète, on se rend compte que malgré tout, Westmiller, donc, en fait, son gros problème, c'est qu'à un moment, il a son comptable qui part avec la caisse, en gros. Donc, après, il va faire des jungle gym pour réussir à manger chaque semaine. Et effectivement, il a un accident. Le seul boulot qu'il retrouve, c'est d'être placé au Caesars Palace à Las Vegas. Et à ce moment-là, il a un accident. Et après, il va vraiment sombrer à la déchéance, se retrouver dans une maison. Puis, dans sa cinquième épouse, qu'on a appelée la veuve noire, s'occupe de lui, mais elle a retiré un peu de sa famille, isolée, pour un peu toucher son argent, imagine, alors qu'il en a plus beaucoup. Et il meurt à Acapulco, effectivement, en 1984, de manière un peu terrible.
Et alors, est-ce que c'est vrai qu'il a appris à nager au fils d'Al Capone en Floride?
Alors, c'est toute la beauté de la fiction, après, dans le roman. Vous avez tous ces fragments qui composent dans Hollywood Express. Alors, j'aime beaucoup laisser au lecteur imaginer est-ce que c'est vrai ou pas, et construire lui-même son propre parcours dans ce livre.
Sure. Hitler was very interested in him. Was he a National Socialist sympathizer?
Vous pouvez traduire peut-être
oui, oui, pardon. Et Hitler s'intéressait beaucoup à lui également,
n'est-ce pas? I don't know. I can imagine that like his figure, you know, would be something like the perfect Aryan because of the image he was projecting. But I don't know about the link that was between them. It was at the Olympics, and not in Berlin. It was a great, great, great athlete. So I suppose everybody was trying to gain on him and, you know, tirer parti.
Effectivement, je ne suis pas sûre, mais c'est vrai qu'il représentait peut-être l'Ariane parfait. Il était dans les Jeux Olympiques, pas à Berlin, mais ailleurs. Donc c'était un athlète, donc peut-être c'est vrai, peut-être Hitler aurait pu s'intéresser à lui.
Et je crois, monsieur Blanglot, que vous aviez aussi quelque chose à nous dire à propos du tournage. Vous m'aviez évoqué ça un petit peu hier soir.
The reason I brought up Colonel Selig is because Colonel Selig settled in Hollywood in a studio on Mission Road where he created the Selig Zoo, which was not only open to the public but ideal for Tarzan pictures and had a kind of a jungle there too.
La raison pour laquelle j'ai évoqué le colonel Selig, c'est parce qu'il a déménagé à Hollywood, il a pris un studio sur Mission Road, il a fondé le zoo Selig, qui était parfait à la fois pour, bien sûr, le public qui s'y rendait, mais aussi pour les films de Tarzan. Il y avait même une jungle là-dedans.
In the silent days, whatever you saw happening, happened. Because they hadn't yet developed back projection.
Donc, dans l'époque du cinéma muet, tout ce qu'on voyait à l'écran a véritablement eu lieu, parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore développé la capacité de la rétroprojection.
So it took amazing courage to make these pictures, and remember that the hard-bitten crew, many of them were ex-cowboys or oil workers, they're very, very tough, and they were all watching you, and even though an actor wasn't supposed to do his own stunts, it was often a matter of pride that he did.
Donc il fallait beaucoup de courage justement pour tourner ces films, parce que dans l'équipe, il y avait des gens, des anciens cowboys, des gens très endurcis qui regardaient pendant que l'acteur faisait son travail. Donc même si l'acteur n'était pas censé faire ses propres cascades, en général, il les faisait juste pour une question de courage et fierté.
But there was one method by which you could put your terrified actor in the same shot as the angry lion. And that was through double exposure. You blocked out one half of the frame and photographed scared actor, and then blocked out the other side and put in angry lion. Now normally this is apparent to us because you can see a line, but the best of the cameramen managed to do this so that it was seamless.
Donc il était possible quand même de mettre l'acteur terrifié et le lion en colère sur le même plan. Donc il fallait mettre la moitié de l'écran en noir et puis de l'autre côté on a l'acteur terrifié. Et puis on remet au noir ce côté de l'écran, on a le lion en colère et puis on remet ces deux ensemble. Et en général on voyait la ligne qui séparait ces deux plans. Mais certains caméramans étaient assez doués pour que ça ne se voit pas.
Then there is another trick which the cameraman used to do, particularly for cowboys who found it difficult to get on their horses. They would just drop the speed of the cranking, the hand cranking, and the cowboy would leap onto his horse. Well, you could use this for tiger chasing actor, for instance, or tiger chasing stuntman, as it normally was. You just drop the speed, and the thing became much more compelling.
Il y avait une autre façon de faire. Le cameraman qui avait en face de lui un acteur qui ne pouvait pas monter sur son cheval, même s'il jouait un cowboy, il pouvait simplement tourner la manivelle un peu plus lentement. Et de cette façon, on avait l'impression que le cowboy arrivait à sauter sur son cheval. On pouvait faire la même chose pour un tigre qui poursuit un acteur. Donc simplement en tournant plus lentement la manivelle, on arrivait à faire des choses.
There were thousands of these tricks, but I'll just end on one of them, and that was the glass shot. You're out in California, you've got a flat landscape in front of you with a couple of eucalyptus trees. How do you create a mountain that has to be climbed? The long shot was done by simply putting a sheet of glass in front of the camera, and an artist would paint the massive precipice and make it fit the foreground, and you could have movement around it. That was left clear, but the painting was photographically accurate. So you simply put that in front of the lens and shot the picture, and nobody was any the wiser.
Donc un autre exemple de quelque chose qu'on pourrait faire en Californie, on a des paysages très plats par certains endroits, avec quelques arbres seulement. Donc comment faire une montagne dans un paysage pareil? Donc on prenait simplement une feuille de verre qu'un artiste a peint avec la montagne dessus et on mettait ça devant la caméra. Et de cette façon, on pouvait en fait bouger autour de cette image. La peinture faisait office d'une photo presque, donc c'était vraiment très réaliste. Et donc on tournait l'image comme ça.
Ça laisse vraiment rêveur. Je m'en excuse, mais je vois l'heure qui tourne très très vite. On est suspendu au lèvres de nos intervenants et le temps est en train de passer. Et on va arriver presque à la fin. Et je voudrais quand même qu'on garde peut-être quand même quelques minutes pour les questions. Ça sera le moment de lapider M. Aziza qui a détruit une mythe. Mais avant, il voudrait intervenir à nouveau parce qu'il a encore quelque chose d'autre à détruire.
Mais très vite d'ailleurs, ce qui va nous emmener à la fin, c'est le problème. On a parlé du cinéma muet. Alors il y a le problème du langage. Ce qui se pose pour Tarzan dans les romans de Burroughs, c'est un problème très important. Un enfant peut-il tout seul apprendre à lire et ensuite à parler? Car vous savez que Tarzan apprend à lire parce qu'il a trouvé dans la cabane de ses parents un abécédaire et il associe les images et les sons. C'est un problème pédagogique extrêmement important. Est-ce qu'on peut apprendre à lire et à parler tout seul lorsqu'on n'est pas entouré d'un environnement de gens qui parlent? Et le problème de Tarzan, c'est que justement, c'est par le lieutenant d'Arnaud, entre parenthèses, Tarzan n'est pas originaire du Congo, mais il est originaire de, vraisemblablement, la Guinée, et donc, de toutes les façons, il est citoyen français. Il est citoyen français. D'ailleurs, dans le deuxième Tarzan, il sera employé comme barbouze du gouvernement français, et tenez-vous bien, un scoop, il a été mêlé directement à l'affaire Dreyfus. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est barbouze du gouvernement français et il va à Sidi Belabès pour mettre la main et dénoncer un officier d'artillerie français qui est en train de vendre des plans d'une arme terrible à l'ennemi. Or, il se trouve que dans le Tarzan, ce sont les Russes, parce que Burroughs déteste les Russes, simplement parce que les Soviétiques, après, voleront ses droits d'auteur. Enfin, ils ne lui donneront pas. Je signale également que Hitler fait brûler, quand il fait brûler des livres, il fait brûler également les œuvres de Burroughs. C'est tout à l'honneur de Burroughs. Donc, dans le deuxième Tarzan, il est barbouze du gouvernement français. Et c'est l'affaire Dreyfus. Mais je pourrais l'expliquer pourquoi Burroughs a mêlé Tarzan à l'affaire Dreyfus. Ça, c'est autre chose. Mais donc, le problème du langage. Or, dans le cinéma muet, il ne parle pas, c'est normal, mais on fait prononcer à Johnny Westmiller. Il parle d'une espèce de langage de singe. Entre parenthèses, j'ai revu 10 fois la scène. Il n'a jamais dit « Toi, Tarzan, moi, Tarzan, toi, Jane ». Ce n'est pas dans le film. Ça n'existe pas, c'est autre chose. Je l'ai démontré plan par plan, mais peu importe. Donc, c'est le problème du langage. Or, quand on lit Burroughs, Tarzan va apprendre à parler. Il commencera par apprendre le français. parce que Darnaud est un Français, c'est un lieutenant de marine du gouvernement français, et puis ensuite il apprendra l'anglais, et je m'arrêterai là-dessus, et pour moi c'est cher à mon cœur, dans Tarzan et l'Empire romain, bon, on apprend que Tarzan a appris le latin. Voilà.
C'est effectivement, il a, moi aussi j'ai regardé plusieurs fois, il n'a jamais dit « moi Tarzan, toi Jane ». Et déjà à l'époque du film, il s'en plaignait à son pote Humphrey Bogart qui lui répondait d'ailleurs, mais il dit, faut pas que tu t'en fasses, l'important c'est ce que le public croit. Il dit, moi j'ai jamais dit « play it again Sam » à la fin de la
Tarzan.
Yes, voilà, je voudrais maintenant, parce que l'heure a passé tellement vite, quand même concluons sur ce qui reste une des grandes énigmes. Et l'image du jeune Westmuller Tarzan, c'est le fameux cri de Tarzan que je ne vous demanderai pas, messieurs, de pousser, parce que nous devons tous en
faire. Ah, avec la sasse, avec la sasse.
Mais parlons de. Alors, le cri de Tarzan, qu'est-ce que c'est finalement?
I was at the TCM Festival in LA a couple of weeks ago, and special Academy Award-winning special effects man Craig Barron and another Oscar-winning sound editor, Ben Burt, described some of the special effects of the sound Tarzan. For instance, Craig Barron showed the incredibly complex back projection, which has now come in, which enabled a terrifying beast to chase Johnny Sheffield without any danger. He also showed that there was a problem with the elephants in Tarzan Finds a Son, for instance, because they needed African elephants, and they had larger ears than Indian elephants, but Hollywood, the Selig Zoo again, could only provide Indian elephants. So they had to add ears to the elephants. And there was a stampede with masses of them, so you can imagine what that was like. But as far as Tarzan Yell goes, the note that I made said that they had an elaborate PowerPoint talk, and Ben Burt had a keyboard with effects, and he went through this Tarzan Yell explaining what people thought it was, first of all. Believe it or not, people thought that it was a cow which hasn't been milked. Sorry, I'm
sorry. No, it's fine. J'étais au festival TCM à Los Angeles il y a quelques semaines, et là j'ai pu rencontrer Craig Barron et Ben Burt, qui travaillent dans les effets spéciaux sonores, et ils ont pu montrer justement comment le cri Tarzan a été fait. Donc à l'époque, on avait cette technique de rétroprojection qui permettait à Johnny Sheffield d'être poursuivi par des animaux sans être en danger. Mais il y avait un problème à l'époque avec les éléphants. Dans le film Tarzan trouve un fils, il fallait des éléphants africains avec de grandes oreilles. Mais malheureusement, il n'avait accès que à des éléphants indiens avec de petites oreilles. Donc il fallait reprendre les oreilles de tous les éléphants. Et ça, vous imaginez le travail que ça représente. Donc pour parler spécifiquement du cri de Tarzan, Ben Burt, lors de ce festival, avait un PowerPoint très complexe sur le cri de Tarzan. Il avait un clavier avec des effets sonores, les différentes parties du cri de Tarzan, et il disait ce que les gens pensaient que le cri de Tarzan était. Et certaines personnes à l'époque pensaient que c'était une vache qui n'avait pas
été traite.
Été traite, merci.
Alors, je ne sais pas ce que.
Pardon, sorry. I just got to get to the end of this. He says the solution is a yell by a human with two notes of a clarinet involved. That did not convince me. But when the chimp in Manchita in Tarzan Finds a Son gives vent to a hysterical laugh, he discovered it was Mickey Daniels from Our Gang, a totally different comedy, and they just took the sound and put it over Cheetah Gang.
Donc Ben Burt finalement nous a dit que le cri de Tarzan, là il s'agissait d'un cri humain avec deux notes d'une clarinette. Ça ne m'a pas convaincu plus que ça, mais bon, c'est ce que Ben Burt nous dit. Il a dit que pour le rire par votre de Chita, dont Tarzan trouve un fils, en fait ce rire était Mickey Daniels de Our Gang. Donc ils ont simplement pris un rire d'un autre contexte complètement et l'ont mis sur le Chita qui faisait ce grimace que vous venez de voir.
I just finish this very quickly by saying that the other name that is essential for the background for these Tarzan pictures is Marion C. Cooper, because his Chang, made with Ernest Schurzack, don't be both named, had an elephant stampede in it, but it also showed how you could shoot wildlife more skillfully than had been done before. And tomorrow I'm showing a biographical film about Marion Cooper, which I do urge you to see.
Donc un autre nom qui est très important pour comprendre ces films, c'est Marion C. Cooper, dans son film Chang. Il y a également une scène avec beaucoup d'éléphants dans ce film, et Marion Cooper, en fait, il est arrivé à filmer des bêtes sauvages d'une façon très efficace. Et justement, demain, je vais projeter une biographie de Marion Cooper, et je vous invite tous à y aller.
Très bien. Alors, je pense que suite à l'explication de M. Brownlow sur le cri de Tarzan, vous avez des réactions. Et puis, alors, nous sommes déjà en train de dépasser, mais je pense que personne ne s'en plaint. Bon. Donc, nous sommes en train de légèrement dépasser, puis on prendra peut-être une ou deux questions rapides après. Mais d'abord, vos réactions sur le cri de Tarzan.
Moi, j'aurais quelque chose à dire sur le cri de Tarzan, de très important, c'est ça. Donc c'est la sonnerie de mon portable.
Oui. Et alors, moi j'ai
400 mètres là.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le cri. Avec le portable, ça oui, tout à fait. Non. Buster Crabbe, dans ses mémoires, explique l'origine. Buster Crabbe, qui a donc joué un Tarzan, dit dans ses mémoires que c'était un mélange de tyrolienne à l'envers, de cri de gardien de porc. Enfin, c'est un mélange. Moi, le cri de Tarzan, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cri de Jane. Eh oui. Or, si vous avez pu remarquer que Jane, dans le premier Tarzan de Westmiller, Maureen Sullivan, elle ne dit pratiquement rien. Et dans le deuxième Tarzan, qui est le plus intéressant, hein, celui qui a été censuré par Hollywood, dans le deuxième Tarzan, son cousin vient la chercher et elle dit d'une façon mutine, « Ah, je reste ici, j'ai d'autres plaisirs. » Et puis, tout de suite après, elle se met à crier. Moi, je trouve que le cri de Jane, par certains côtés, est plus intéressant que le cri de Tarzan.
Oui, c'est intéressant aussi, cette histoire de censure, où les livres de bonne mœurs trouvaient à l'époque, quand on voit les films de Tarzan aujourd'hui, on s'est dit, mais comment c'est possible? Des manifestations devant les cinémas, disant qu'il n'y a pas question qu'on montre les gens à moitié nus comme ça, dans l'Amérique des années 30.
C'était quoi au moment de... Comment ça s'appelait, le Code Hays?
C'était le Code Hays, oui. Et le Code Hays interdisait de montrer le nombril. On a su après, lorsque l'épouse de Hays a fait un procès à son mari pour cruauté mentale en divorce, que manifestement, Hays confondait le sexe féminin et le nombril. Pas ce qui a pu se passer, c'est atroce. Bon, ce qui fait que dans le cinéma américain, par exemple, vous ne pouvez pas montrer qu'un homme et une femme couchaient ensemble. Dans les années 30, la comédie américaine, on les voyait le soir, ensuite il y avait un noir, et on les voyait le lendemain matin en train de prendre le petit déjeuner. C'est une espèce de code, tout le monde comprenait. Alors dans le cri de Tarzan, vous avez pu remarquer qu'à partir du 3 ou du 4 Westmiller, Tarzan est avec Boy, et puis Jane est à côté, et il n'a pas... Boy est un enfant trouvé. Alors que chez Burroughs, Tarzan est non seulement père, mais il est suite grand-père, etc., etc. Voilà.
Bien, ben, nous allons peut-être passer aux questions. Je suppose que vous devez en avoir. C'est toujours impressionnant ce silence.
Je vais passer à la deuxième question. La première.
Oui, alors passons à la deuxième question directement.
Habituellement, j'ai des gens dans la salle qui doivent poser des questions, mais quand je suis seul, pour montrer à quel point je suis intelligent, brillant, etc. Ils sont prêts, là, des barons, mais là, je n'ai pas eu le temps d'en préparer. Alors, donc, faites un effort.
Well, I want to know, when you go to the ballet and your mobile phone goes off.
It happens only once, but it was fine.
Bah écoutez, alors si vraiment personne n'a de questions, bah, nous allons lever la séance et voilà.
Monsieur Sauve-l'honneur de la salle.
Monsieur Sauve-l'honneur de la salle, voilà.
Ma question est peut-être...
Attendez, vous prenez le micro s'il vous plaît.
Ma question va paraître un peu tendue, parce qu'elle renvoie à un vieux souvenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est le mythe d'Arzan et Christophe Lambert. Justement, j'avais lu il y a très longtemps que Christophe Lambert, lorsqu'il avait été choisi justement pour le rôle de Tarzan, là ça va avoir son mythe, il avait été pris pour son sens de l'immobilité.
Son sens de l'immobilité.
En fait, j'ai le souvenir qu'il était arrivé à un casting et on avait demandé sur une scène plusieurs personnes de sauter dans tous les sens, imaginons au milieu des singes, et lui n'avait pas bougé. Et il avait été choisi justement pour son sens de l'immobilité. Et je voulais savoir si c'était vrai ou si c'était vrai.
Moi, je peux répondre, mais je trouve que Christophe est une trahison. Voilà pourquoi.
Oui. Non, mais ça
j'ai rien contre Lambert. Hein. Ouais. Je l'aime bien dans Highlander, et puis c'est tout. Il est lamentable dans Vercingétorix, ça cherche choucroute là, comme ça, sur la tête. Mais non, non sur Lambert, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Je ne sais pas, simplement, le réalisateur a trahi Bureau, c'est ça, je ne lui pardonne pas. Mais à part ça, si vous voulez qu'on finisse par le cri. J'ai eu la chance, mais de loin, de voir un jour, le jour où Wes Miller est allé au Festival de Cannes, et il c'était sa marque, finalement, puisqu'il est mort en poussant, semble-t-il, le cri. Il a descendu de l'avion, donc à Nice, et puis, quand il est arrivé, il a poussé le cri de Tarzan. Ça voulait dire que, d'une certaine façon, Wes Miller est réduit au cri. Voilà. Au fond, c'est ça, c'est de l'Antonioni de la jungle, si vous voulez, si on parle du cri, quelque sorte.
Cri qui aura été joué lors de son enterrement dans un cimetière inconnu sur la côte près d'Acapulco. Apparemment, c'était assez glauque. Et pour répondre à l'histoire de Christophe Lambert, je vais faire une réponse de littéraire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle histoire.
De Christophe Lambert. Bon, bah nous allons rester alors sur le mythe de Christophe Lambert. Oui, mais parce que j'ai peur qu'après ça, on nous jette dehors. Je vois quelqu'un qui fait les gros yeux là-bas.
Une question sur l'avenir et la possibilité de Tarzan, puisqu'il a 100 ans, un peu plus, je crois, maintenant les débuts. Je ne crois pas qu'il y ait de projet au cinéma ou de réédition de l'ancien. Si Tarzan est un mythe immortel, quel est l'avenir de ce mythe aujourd'hui? Là, c'est l'ancienne édition et ses comics d'archives.
Il y a, semble-t-il, mais je croyais que c'était l'an dernier qu'il sortirait, ou cette année, il y a deux Tarzans en cours de tournage, dont un Tarzan français, semble-t-il. Hein. En ce qui concerne les rééditions, il est absolument lamentable que tout Tarzan n'ait pas été traduit en français. Chaque fois qu'un éditeur s'est lancé dans Tarzan, il a eu le temps de commencer par le 1, et quand il arrive au 12, 13, 14, 15, les derniers CNEO, bon. Moi je viens de rééditer, il est en vente ici, en omnibus, le début, c'est un premier volume, je voudrais aller jusqu'à la fin, y compris faire traduire hein, ceux qui n'ont pas été traduits, notamment Tarzan the Foreign Legion, qui c'est pas la Légion étrangère, mais qui est le dernier Tarzan. Et puis, de toutes les façons, si vous avez lu Farmer, vous savez comme moi que Tarzan a rencontré dans un de ses volumes un sorcier qui l'a rendu immortel, lui et toute sa famille. Donc, il est là. Si ça se trouve, il est quelque part, peut-être sous les traits d'un auguste vieillard avec une barbe qui s'est dit. Et donc, Tarzan, on va le voir réapparaître au fur et à mesure, mais j'espère, là, en tant qu'éditeur, qu'on va arriver à les traduire. Mais comment on va arriver à les traduire? Il faut qu'on achète le premier volume, forcément, si vous voulez. Puis ensuite, s'il a du succès, on fera les autres. Hein. Voilà pour la réponse.
Bien. Écoutez, sur ce, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos trois intervenants.